Merci de passer la soirée, un bout de la nuit, même avec nous. On est ensemble en direct jusqu'à minuit et demi, puisque l'on attend l'interview ce soir de Donald Trump sur Fox News, qui va tomber là dans les toutes prochaines minutes. Et il doit donner des détails sur cet échange téléphonique qu'il a eu aujourd'hui avec Vladimir Poutine. Alors, on le sait qu'il a accepté le principe d'une trêve de 30 jours, trêve partielle, uniquement sur les infrastructures énergétiques. Et ce que dit Vladimir Poutine, si on va plus loin dans les discussions, dans les négociations, dans ce cas-là, je pose mes conditions. Et mes conditions, c'est un arrêt de l'aide militaire occidentale à Kiev. Mais derrière ça, qu'est-ce qui s'est négocié en coulisses? Qu'est-ce qui s'est dit en coulisses? Il y a un certain nombre de sujets, notamment sur les concessions territoriales, et un certain nombre de sujets, les garanties de sécurité, sur lesquels on n'a pas de détails. Et c'est précisément ce que l'on attend ce soir de cette interview de Donald Trump. Antoine Lard, vous êtes notre correspondant à Washington. On a ce soir une prise de parole, déjà, de Donald Trump auprès du Washington Examiner. Et on apprend, en tout cas, c'est ce que dit le président américain, que visiblement, il a ce coup de téléphone n'était pas le premier. Il a eu plusieurs échanges téléphoniques avec Vladimir Poutine, c'est ça?
Oui, exactement. Donald Trump dit plusieurs choses dans cette interview. D'abord, que c'était un bon échange téléphonique avec Vladimir Poutine. Il dit qu'il pense que Poutine est sérieux et qu'il veut vraiment la paix. C'est vrai que c'est aussi l'argument qui est mis en avant souvent par Donald Trump, sa bonne relation avec Vladimir Poutine, le fait qu'il le connaît bien, ce qui va lui permettre, dit-il, d'obtenir des choses. Et effectivement, dans cette interview, il révèle qu'il y a eu plusieurs coups de fil ces dernières semaines entre les deux présidents, bien plus que ce qui a été révélé jusqu'ici publiquement. Jusqu'ici, jusqu'à aujourd'hui, la Maison-Blanche avait expliqué qu'il y avait eu seulement un appel téléphonique entre les deux présidents. En réalité, Trump nous dit qu'il en a eu davantage. Alors, vous l'avez dit, Trump aujourd'hui n'a pas obtenu ce qu'il souhaitait. Trump voulait convaincre Poutine d'accepter un cessez-le-feu total sur l'ensemble du territoire ukrainien. Finalement, le cessez-le-feu auquel Vladimir Poutine consent est très limité. Mais Donald Trump parle quand même d'un développement positif. Pour lui, il y a un processus qui est enclenché et qui va déboucher sur la paix. Dans cette interview, Trump ne donne pas de précision, pas de détails sur ce qui s'est dit en termes de garantie de sécurité pour l'Europe ou sur les conditions que Vladimir Poutine a posées afin d'aller plus loin dans les discussions. Quand le journaliste du Washington Examiner lui demande si il peut mettre la pression sur Vladimir Poutine et quel levier il a afin d'obtenir ce qu'il souhaite, eh bien là, Donald Trump botte en touche en expliquant qu'il ne veut pas mettre la pression sur Vladimir Poutine, que le simple fait d'avoir une bonne relation avec lui, de pouvoir parler avec lui, permettra de débloquer la situation.
Merci beaucoup Antoine Lard. Guillaume Hansen, c'est de nature à nous inquiéter quand Donald Trump botte en touche sur la possibilité d'avoir des moyens de pression contre Vladimir Poutine et qu'il répond d'ailleurs, Poutine est très solide, très fort, il est très fort. Ça veut dire qu'il a tout cédé à Vladimir Poutine, c'est comme ça qu'il faut le traduire?
Absolument, c'est plus inquiétant, c'est que maintenant on réalise que c'est vraiment une tromperie, sa négociation. Trump a tout concédé à Vladimir Poutine et on ne va pas s'étonner que Poutine accepte la démarche que propose Trump puisqu'il est le gagnant qu'une guerre ne lui avait pas permis d'être. Donc il rafle la mise aujourd'hui grâce à Donald Trump. Je rappelle que l'armée russe était totalement enlisée après 3 années de combat et que même si elle gagne des villages, c'est ridicule par rapport aux moyens qu'elle consacre. Et donc pour Poutine, il fallait une voie de sortie qui évidemment ne venait pas de lui, mais c'est le président des États-Unis qui lui offre. À ce stade, on peut quand même noter qu'il y a un sujet avec Koursk, que les Ukrainiens n'ont pas totalement évacué. Il reste sans doute très peu de surfaces qui sont encore tenues par les Ukrainiens, en territoire russe. Et Poutine, bien sûr, a montré qu'il n'accepterait pas un cessez-le-feu tant que la ligne de démarcation ne sera pas repassée du côté ukrainien. La deuxième chose, c'est que quand on veut figer une ligne de front, il faut écarter les belligérants. Parce qu'effectivement, comme le rappelle Trump, si les gens sont les uns en face des autres, c'est évident qu'il y aura bien un coup de fusil, une grenade pour relancer des combats. Donc, on est obligé de prendre des mesures pour dire on se retire à 500 mètres, 1 kilomètre d'une ligne qu'on a tracée. La ligne de front n'est jamais une ligne rectiligne. C'est une espèce de zone plus ou moins définie avec beaucoup de champs de mines et de destruction. Donc, très difficile à définir. Et puis, la troisième chose, c'est que Koursk montre que s'il y a un problème d'ingérence étrangère dans cette guerre, puisque Poutine exige que les Occidentaux n'aident plus l'Ukraine, c'est quand même lui le seul à avoir une armée étrangère sur son sol. Il y a plus de 10 000 soldats nord-coréens qui sont en Russie, qui se battent à Koursk. Donc quand il nous parle des garanties de sécurité pour la Russie, on a vraiment l'impression, comme pour Trump, d'être dans un monde inversé. C'est lui qui agresse l'Ukraine et pas le contraire.
Elsa, on a quand même eu, de la part de Washington et de Donald Trump ces derniers jours, une mise en scène autour de ce coup de téléphone, ce fameux appel qui devait changer le cours de la guerre, qui devait être un tournant. Et là, on apprend ce soir, c'est Donald Trump qui le dit, qu'en fait, il y a eu plusieurs appels avec Vladimir Poutine.
Ah oui.
Qu'est-ce qu'il faut comprendre ?
Mais qu'on...
C'est un tromperie, comme disait Guy Montel.
C'est très bien résumé, c'est que ni Vladimir Poutine ni Donald Trump n'ont de compte à nous rendre. Ils créent les règles auxquelles ils se conforment ou ils les changent. Et c'est le privilège des hommes assis en haut d'une hiérarchie. Et c'est un monde qui prévoit justement un cadre très strict et très hiérarchique. C'est pour ça qu'on parle aussi de retour de la puissance qui tient lieu de loi et non pas de la loi qui encadre la puissance. Et c'est pour ça que cela pose une multitude de problèmes qui ne vont faire que s'aggraver pour les Européens. Donc ce que cela veut dire, c'est que ces hommes ont une relation qui est établie depuis longtemps et qui, en tout cas, si on veut se baser sur ce qui est le plus simple à observer, depuis le premier mandat de Donald Trump, il y a des relations privilégiées entre les deux. J'en veux pour preuve au moins deux événements. Une conférence conjointe à Helsinki, un sommet où les deux se rencontrent, je pense que c'est 2019, où Vladimir Poutine dément que la Russie ait quoi que ce soit à voir avec une ingérence dans la campagne électorale précédente aux États-Unis. Et Donald Trump préfère croire Vladimir Poutine, donc un chef d'État étranger, plutôt que ses propres services de renseignement américains qui disaient qu'il y avait eu des ingérences russes. Et deuxième moment, quelques années plus tard, il y a une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine qui se passe sans conseiller et sans interprète, ce qui est absolument hors protocole. Alors maintenant, on apprend aussi qu'ils se sont parlé. Effectivement, ils se sont parlé quand Donald Trump n'était plus aux affaires, qu'il y a eu la crise Covid. Il a envoyé des tests Covid à Vladimir Poutine à l'époque où ceci était très peu disponible. Et Vladimir Poutine lui a dit « ne parle pas de cette affaire » et de cet envoi parce que cela te nuirait. Donc il y a une relation privilégiée entre ces deux dirigeants.
Nicolas Tenzer, précisément, ce soir, Vladimir Poutine et Donald Trump ont fait un pas de plus dans la normalisation de leur relation, dans ce rapprochement entre Russes et Américains. C'est déjà une victoire, ça, pour le président russe.
Mais c'est une victoire évidente pour Poutine, parce qu'il ne faut pas oublier que Poutine, c'est un paria. C'est un homme qui est recherché par 125 polices du monde, hein, puisqu'il a été inculpé de crimes de guerre le 17 mars 2023 par la Cour pénale internationale, dont n'est pas membre les États-Unis, ça il faut aussi le rappeler. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est quand même l'un des plus grands criminels auquel Trump offre, comme le disait Guillaume tout à l'heure, une sorte de porte de sortie. Parce que en fait, la Russie n'était pas du tout en train de gagner la guerre. Et d'ailleurs, je pense qu'à la fin, elle ne la gagnera pas, parce que les Européens et les Ukrainiens vont riposter. Et là, il dit finalement à Poutine, voilà, on te sauve la mise, on te sauve ton économie, on te sauve ton armée, tu vas pouvoir continuer à agresser les Ukrainiens. Et c'est là aussi vous avez une connivence idéologique, c'est-à-dire que la différence entre l'agresseur et l'agressé, entre la victime et le coupable, finalement pour Trump, ça n'importe absolument pas. C'est-à-dire que ce ne fait pas du tout partie de ces catégories. Regardez aussi ce qu'ont fait les États-Unis. Ils ont supprimé tous les financements qui étaient destinés à enquêter sur les crimes de guerre commis par la Russie. Ils ont supprimé les financements de l'université Yale aussi, qui faisait un travail remarquable de recherche des enfants ukrainiens, des dizaines de milliers qui étaient déportés en Russie. Et qui constitue d'ailleurs un crime de génocide, il faut le rappeler. Voilà, donc vous avez effectivement cette collusion. Et donc ça veut dire aujourd'hui, clairement, que Donald Trump est complètement aligné sur la Russie de Vladimir Poutine et que les Européens, aujourd'hui, deviennent la seule puissance, avec le Canada, avec certainement le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, l'Australie, à pouvoir résister ensemble à cette domination de trois puissances révisionnistes, la Chine, la Russie et maintenant les États-Unis.
À vous écouter les uns les autres, on a l'impression que tout est déjà dealé, que tout est déjà acté, que Donald Trump a déjà tout cédé à Vladimir Poutine. Vous êtes d'accord avec ça, Louis Saillant ?
Bah, disons qu'on a une lecture des agendas qui est assez claire. Hein. Chacun a ses pièces à jouer et on en a parlé tout à l'heure. En fait, l'enjeu pour la Russie, l'enjeu pour les États-Unis, c'est pas l'Ukraine. L'enjeu pour les États-Unis, c'est la Chine. c'est leur enjeu majeur, c'est Taïwan, et ils sont obsédés par ça, tout le département de la défense est obsédé par ça. Donc en fait,
et c'est pas un mauvais calcul d'imaginer une seule seconde que Vladimir Poutine pourrait se détourner de Xi Jinping au profit de Donald Trump.
Alors peut-être. Alors je sais pas à quel point et dans quelle mesure, mais c'est sûr que c'est toujours plus intéressant d'en faire un allié, sachant que ils sont très proches de la Chine. Et en fait, ça va bousculer l'alliance de la Chine avec la Russie, et donc ça va jouer en leur faveur. Et de la même manière que les Russes, eux, ils ont un autre enjeu. Ils ont un enjeu sur les territoires ukrainiens. Il y a aussi un enjeu sur les sous-sols ukrainiens. Donc tous ces enjeux, en fait, il faut, en gros, ils sont en train de les architecturer tranquillement, en dehors de tout contrôle, comme l'a dit ma collègue très justement. C'est-à-dire qu'en fait, ils font leur propre petit assemblage entre eux. Et malheureusement, je crains qu'il n'y ait pas grand-chose à faire. Je ne sais pas si... Et la grande question, c'est la question de l'Europe. La place de l'Europe dans le positionnement de l'Ukraine. L'Europe veut continuer à soutenir l'Ukraine, mais dans quelle mesure est-ce qu'on arrivera à soutenir l'Ukraine suffisamment pour que l'Ukraine puisse continuer à combattre.
Avec la question de savoir, est-ce qu'on pourrait prendre le relais de l'aide militaire américaine, c'est si tant est qu'elle soit coupée, puisque c'est une des conditions qui a été fixée ce soir par Vladimir Poutine pour aller plus loin dans ces négociations. Je posais la question, Ulysse, est-ce que tout est déjà joué? Est-ce que Donald Trump a déjà tout cédé? Je vous voyais faire non de la tête.
Non, je ne pense pas, parce que si ça avait été le cas, on aurait ce soir un véritable cessez-le-feu. On voit bien que tout n'est pas négocié et qu'il y a encore beaucoup de travail. Et en fait, l'une des informations de la journée, c'est qu'il y a une création de deux groupes d'experts, russes et américains, qui vont dans les prochaines semaines, pour ne pas dire les prochains mois, étudier tous les détails d'un potentiel accord de paix entre l'Ukraine et la Russie sous l'égide des deux présidents, Trump et Poutine. Mais ce qui est vrai, en même temps, c'est qu'il y a une pression très forte qui est exercé par Poutine sur Trump. Trump n'a pas tout lâché. En particulier, on s'attendait à une information concernant la reconnaissance de l'annexion de la Crimée par la Russie qui n'est pas venue ce soir. On s'attendait aussi à peut-être un élément sur la perspective d'élection qui serait imposée à l'Ukraine. Élections présidentielles qui ont été donc repoussées en raison de la guerre et comme le prévoit d'ailleurs la constitution ukrainienne, ça n'a pas non plus été annoncé. Donc il y a encore énormément de choses et puis on ne sait rien non plus sur les contreparties en matière commerciale et ça me semble un élément extrêmement important pour Trump en particulier, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va obtenir ou pas. Par exemple, pour alors tout le monde parle de l'exploitation des terres rare en Ukraine, ouais. Mais il y a bien au-delà, il y a des négociations beaucoup plus importantes et à court terme entre des grands fonds américains, d'énormes fonds américains qui ont des milliards de dollars à mettre sur la table pour faire du business avec leurs homologues russes et avec le fonds souverain russe en particulier. Et d'ailleurs, la présence de l'un des plus proches conseillers de Poutine en matière économique démontre bien que la place du business dans ce deal à venir. Et puis il y a aussi la question de l'exploitation de terres, enfin de l'Arctique en particulier, auquel les Russes sont très attachés pour des raisons stratégiques et de richesse des sous-sols. Et donc tout ça, on ignore encore le véritable consensus ou pas qui a eu lieu aujourd'hui entre Poutine et Trump sur les grandes lignes. On a encore beaucoup de choses à apprendre. Bon, mais d'autant plus que ce soir, je peux dire, tout n'est pas joué et on ne sait pas effectivement ce qui sera in fine accepté par les deux parties. Il faudra attendre quelques semaines pour en savoir plus.
Et d'ailleurs, c'est ce que demande Volodymyr Zelensky. Il demande à échanger avec Donald Trump pour savoir les détails de cette conversation, puisque le Kremlin a parlé d'une discussion franche et détaillée. Donc ça signifie potentiellement tous ces points ont été abordés. Par rapport à ce que disait Ulysse et Guillaume Ancel, si tout avait été joué, si tout était accepté, peut-être qu'on aurait une communication ce soir. Et c'est vrai que ça peut nous étonner, c'est qu'il y a eu cet appel dont on a tant parlé ces derniers jours, qu'on a tant mis en scène, et derrière, pas de conférence de presse, une communication dans un premier temps du Kremlin, puis après de la Maison-Blanche, et ce soir, cette interview de Donald Trump qu'on attend sans donner les détails de cet échange.
Oui, il y a une forme de déception. On se doute, et je pense que les événements le confirment, que Trump et Poutine négocient depuis des mois ensemble et qui sont mis d'accord sur un grand calendrier, mais surtout ce qui est l'application concrète et notamment les points commerciaux que rappelait Ulysse, en réalité ils ne sont pas rentrés dans ces détails-là. Or, il va y avoir une complexité très forte à l'application d'un cessez-le-feu. Aujourd'hui, on a à peine l'amorce d'un cessez-le-feu. Ce soir, il y a des drones qui explosent au-dessus de Kiev Par conséquent, on peut pas dire que le cessez-le-feu soit une réussite. Normalement, quand il y a un cessez-le-feu, les canons se taisent.
C'est pas un cessez-le-feu sur tous les objectifs. Il y a ce soir un hôpital qui a été touché à Kiev.
Ulysse, c'est ce que je suis en train de dire.
Oui, non, mais ce que je veux dire,
on attendait un cessez-le-feu. Et en fait, de dire qu'il y aura un cessez-le-feu uniquement pour les infrastructures énergétiques, pardon, c'est comme si dans la guerre on disait ah bah finalement on n'utilisera pas les balles d'un calibre supérieur à 7 mm. Enfin, je veux dire, c'est incontrôlable et c'est invérifiable. Donc ça n'est pas un cessez-le-feu. On a l'impression c'est l'amorce d'un cessez-le-feu et on voit bien un Trump qui est extrêmement impatient de pouvoir dire je suis le président le plus puissant du monde et de l'histoire des États-Unis, j'ai imposé la paix. Et puis un Vladimir Poutine qui est plus vicieux que jamais et qui, lui, cherche à obtenir encore plus de choses, puisqu'il a déjà obtenu énormément de la part de Trump.
Un Trump qui doit afficher cette trêve, qui doit donner cette trêve qu'il a promise, notamment à son opinion, l'opinion américaine, mais en même temps qui ne peut pas paraître passé pour faible vis-à-vis de Vladimir Poutine. Et on voit là qu'il y a tout un jeu de communication qui se met en place ce soir, avec d'ailleurs les premières déclarations de Donald Trump auprès de Fox News. Voilà ce que dit le président américain ce soir. Personne n'a été plus dur que moi avec la Russie, parce que précisément, il n'a pas obtenu, parce qu'il faut le dire, il n'y en a pas eu ce soir, c'est le feu total. C'est un bout de cessez-le-feu, hein, c'est le feu partiel. Et ce soir, il est dans la communication en disant aux électeurs américains, bah oui, 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 non, mais j'ai tapé du poing sur la table.
Et moi, je suis persuadé que depuis longtemps, ils ont prévu l'opération et d'ailleurs le fait qu'il y ait eu plusieurs coups de fil, plusieurs coups de communication, enfin, plusieurs coups de téléphone ensemble. Et non pas deux comme on l'a d'abord cru, ça veut dire qu'ils ont mis au point depuis longtemps leur stratégie de communication et leur stratégie de sortie de crise qui pouvait satisfaire à l'un et à l'autre. Et pour qu'elle soit audible et qu'elle ne révolte pas complètement tout le monde, alors qu'elle va révolter tout le monde, enfin tous ceux qui sont en désaccord avec ce qui se passe, eh bien il faut qu'ils aient un plan de sortie de crise progressif. Donc, ils ne donnent pas tout de suite, mais je suis persuadé qu'on va apprendre prochainement que, évidemment, les terrains occupés par la Russie, ben, y compris la Crimée, ne seront pas restitués. Ça paraît assez évident. On va apprendre au fur et à mesure tout ce qui déplaît à Zelensky. Et puis, Zelensky sera mis au pied du mur parce que, à ce moment-là.
Donc, ça va être distillé au compte-gouttes, c'est ça?
Et ça va durer longtemps. Ils vont fatiguer la bête. C'est ça le but, c'est de fatiguer l'opinion publique ukrainienne, de créer la zizanie à l'intérieur de l'opinion publique ukrainienne. Et Dieu sait si elle a montré des signes de faiblesse en 3 ans parfois. Il y a eu des signes de découragement. Il y a eu des périodes, je ne sais pas si vous vous souvenez, où Zelensky a été contesté. Sa stratégie a été contestée. Et donc, ils vont jouer de cela, évidemment. Et puis, ils attendent une chose aussi, c'est que l'Union européenne, ou tout au moins les Européens, qui montrent quand même un front plutôt assez uni, hein, en dehors de un ou deux pays, ils montent un front plutôt assez uni, et bien que cette Europe se divise au bout d'un moment. C'est le jeu.
L'inconvénient pour Donald Trump, c'est qu'il veut quand même son prix Nobel de la paix, il veut faire la paix. Et je prends juste le contre-exemple de ce qui se passe au Moyen-Orient, à Gaza. Il y a eu une attaque extrêmement importante des Israéliens qui a fait près de 400 morts et qui remet la guerre, si vous voulez, au premier plan à Gaza. C'est-à-dire que Trump avait dit, quand il est arrivé à la Maison-Blanche, je vais faire la paix à Gaza, j'imposerai la paix au Hamas. Et là, on voit que ça n'a pas marché comme prévu. C'est pour ça que je dis que tout n'est pas joué. C'est-à-dire qu'on peut effectivement s'attendre à des soubresauts, des annonces régulières, des négociations longues, etc. Mais il y a quand même une négociation qui va se poursuivre. Et à un moment donné, Trump va devoir répondre à la pression de Poutine, qui s'exerce aujourd'hui de façon très claire. Et qu'est-ce qu'il peut faire pour convaincre les Américains et le monde que finalement il est capable de faire la paix sans obliger les Ukrainiens à capituler.
Il ne faut pas attendre de Trump qui montre des signes de faiblesse officiellement. Donc il va habiller ça. Et ça, moi je suis assez pessimiste quand même sur l'avenir pour l'Ukraine. Hein. Très pessimiste même.
Alors justement, ça y est, on a les premières interventions de Donald Trump à Fox News. On va l'écouter.
Cette situation avec des armes dans tous les sens, c'est terrible. C'est une guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu, elle n'aurait pas eu lieu si j'étais président. Mais la situation est ce qu'elle est. des armes tous azimuts et un cessez-le-feu sans aller plus avant aurait été difficile. La Russie a l'avantage, comme vous le savez. Ils ont encerclé près de 2500 soldats. Ils sont complètement encerclés. Ce n'est pas bien du tout. Il faut régler cette situation. Il n'y a pas d'Américains impliqués. Il pourrait y en avoir. Il pourrait risquer la Troisième Guerre mondiale. Ce serait terrible, mais possible.
Antoine Allard, on vous retrouve en direct de Washington. Vous avez écouté l'intégralité de ses propos sur l'Ukraine. En voici juste un extrait et sur cet échange avec Vladimir Poutine. Que faut-il retenir de cette interview?
Bah écoutez, on a senti un Donald Trump pas très à l'aise, qui est très évasif, qui fait des réponses très générales, qui ne rentre pas dans les détails et qui globalement donne l'impression qu'il sait qu'il n'est pas sorti gagnant de sa conversation avec Vladimir Poutine. Trump, on le rappelle, voulait un cessez-le-feu total sur l'ensemble du territoire de l'Ukraine. Il ne l'a pas obtenu. Et lorsque la journaliste de Fox News, alors qu'il ne lui a pas posé de questions vraiment très agressives, qu'il n'a pas cherché à avoir beaucoup de détails, mais quand elle lui demande si Poutine a posé des conditions pour de futures négociations, là, Trump répond, et c'est assez surprenant, que la question de l'aide à l'Ukraine, vous savez qui est centrale, l'aide militaire, n'a pas été abordée pendant cette conversation. Voilà ce qu'il a déclaré. Nous n'en avons pas du tout parlé. Réponse assez étrange, donc, et c'est la seule chose finalement à retenir, parce que pour le reste, Trump a fait beaucoup de digressions et beaucoup de réponses très larges, très généralistes, assez évasives en réalité.
Merci beaucoup Antoine Allard pour ce compte-rendu de cette interview de Donald Trump ce soir à Fox News. Guillaume Ancel, je vais vous donner la parole dans un instant. Juste Nicolas Tanzer par rapport à ce que dit Antoine Allard. Il dit voilà, il est resté très flou, il est resté très vague, il est resté très évasif. Oui. Ça traduit qu'il n'a pas eu le dessus lors de cette conversation téléphonique. C'est comme ça que vous l'interprétez?
Je pense qu'il s'est rendu compte que d'abord Poutine est le plus fort, parce que Poutine s'est quand même manipulé Trump, et peut-être que Trump a eu l'intuition finalement de cela. Ensuite, il est resté dans la dénégation, hein, ce que Freud appelait Verneinung en allemand, c'est-à-dire vraiment un concept assez classique de la psychanalyse, c'est-à-dire la dénégation. Oui, j'étais le plus fort. Ce qui vraiment est une sorte d'aveu.
Ce qui traduit l'inverse.
Voilà, ça traduit exactement l'inverse. Il a répété la fausse nouvelle absurde sur l'encerclement des troupes ukrainiennes qui vient exactement de Moscou. Donc ça, c'est vraiment la propagande de la Russie. C'est pas du tout ce que disent, je dirais, les gens qui observent la situation sur le terrain. Et puis, il a eu sa vantardise habituelle. J'aurais arrêté la guerre, ce qu'il a déjà dit 100 fois. Donc là, c'est la répétition du même. Mais je crois qu'on a vraiment l'impression d'un homme aujourd'hui qui ne sait plus comment faire, qui veut cette paix, qui se rend compte qu'elle est impossible, mais qui ne veut pas se désavouer. Et c'est-à-dire qu'il est tellement proche de Poutine, il y a tellement de connivence idéologique que je ne pense pas qu'on ait ce retournement que certains espèrent, je pense, avec beaucoup d'illusions encore, que de tout à coup, il fasse rendre compte effectivement que l'ennemi, c'est Poutine, et qu'il va se retourner du côté des Ukrainiens. On n'en est absolument pas là.
Quitte à perdre la face à Vladimir Poutine, quitte à passer pour celui
sinon,
qui cédera tout au président
face,
russe,
il perdra la face par rapport à son électeur.
Mais il pourrait passer aussi pour un faible vis-à-vis de ses électeurs.
Républicain est majoritairement pro-Ukraine et anti-russe, il ne faut pas l'oublier.
Guillaume Ancel.
Pour moi, c'est le sujet. On vous l'a très bien montré. Personne n'est plus dur que moi avec la Russie. On voit bien qu'en fait, il reconnaît qu'il a une faiblesse vis-à-vis de l'électorat américain qui est extrêmement important. Enfin, mince, c'est le chef du Parti républicain qui est quand même l'ennemi pendant des décennies de l'URSS dont Poutine est l'héritier. Et là, c'est lui qui concède la victoire, qui fait de Poutine un chef victorieux alors que c'était un paria, comme le rappelait Nicolas. Et pour moi, ça, c'est une vraie faiblesse de Trump. Vous avez entendu qu'il nous ressort une histoire hallucinante, il nous évite une Troisième Guerre mondiale. Mais il n'y a jamais eu de Troisième Guerre mondiale. Ça, c'est l'argument de Poutine. Et en fait, en guise de
prix Nobel... Il l'avait déjà dit à Volodymyr Zelensky, ça.
En guise de prix Nobel de la paix, je pense que Trump mérite le prix Nobel de la trahison à ce stade.
Et d'ailleurs, sur la question de l'aide militaire, c'est la condition, Louis Saillon, qui a été posée par Vladimir Poutine pour aller plus loin dans les discussions, la suspension de l'aide militaire occidentale. Là-dessus, ce qu'Antoine nous disait, il a botté en touche.
Oui, alors il y a peut-être aussi un dernier enjeu qu'on n'a pas évoqué, c'est le temps. Il est possible aussi que Poutine soit en train de faire un dernier sprint en utilisant le temps de la négociation pour grignoter du terrain. Et en fait, il se trouve que donc la formation des troupes encerclées, c'est peut-être aussi une manœuvre. En fait, moi, j'ai eu l'information hier par des sources internes. Donc, en fait, il est possible qu'ils aient organisé ça aussi pour retarder et pour avoir un autre levier sur les négociations. Donc, il est possible que l'information soit vraie, en fait.
Il cherche à gagner du temps, Elsa, Vladimir Poutine?
Oui, il cherche à gagner du temps pour maximiser son avantage sur le terrain militaire. Il cherche à gagner du temps parce que comme ça, il crée de la pression pour Donald Trump. Et là, il lui a laissé miroiter un début d'accord. C'est un appât. Et donc, il se dit qu'il approche de son but et il va être encore plus enclin à faire des concessions parce que le but se rapproche. Tout particulièrement au même moment que Gaza a plutôt tendance à s'éloigner, parce qu'après la journée d'aujourd'hui et les frappes donc d'Israël sur la bande de Gaza, on peut dire que l'accord de cessez-le-feu est mort et enterré. Donc cette très belle réussite qui a inauguré le début du mandat de Donald Trump, elle est en train de s'effondrer. Donc il est probable que de ce point de vue-là, il sera encore plus enclin à aller au-devant de Vladimir Poutine, dans notamment, et c'est vraiment important, la relance des relations commerciales, la levée des sanctions.
C'est ça qu'il faut comprendre quand, dans le communiqué de la Maison-Blanche aujourd'hui, Ulysse, quand la Maison-Blanche parle de gros avantages économiques, c'est ça qu'il faut comprendre, que derrière ça, c'est négocier la levée des sanctions américaines.
Alors, c'est ce que cherche absolument Vladimir Poutine. Moi, ce que je retiens surtout de ce que dit Donald Trump ce soir, c'est ce n'est qu'un début, continuons la négociation pour obtenir plus. Donc, d'une certaine manière, il n'a pas obtenu tout ce qu'il voulait. Ça se traduit clairement, d'ailleurs, par les conditions mises par Poutine à un cessez-le-feu plus général et même à un accord de paix. Donc, oui, je pense que, de toute façon, Trump, pour obtenir quelque chose de Poutine, il doit passer par l'économie, par le business et par les accords qu'il pourrait conclure, notamment, encore une fois, sur l'exploitation de l'Arctique, mais aussi sur des deals immobiliers.
Donc le deal, c'est en gros à toi le sol ukrainien et à moi le sous-sol ukrainien, c'est comme ça, c'est dans ce terme-là que ça se...
un peu rapide, mais non, mais il y a très certainement une donnée commerciale, mais le problème, c'est que ça ne fonctionne pas. Et moi, je pense que si effectivement les Ukrainiens sont acculés, comme on le voit dans la poche de Koursk, qui est toujours l'objet de combat, ils peuvent dire à un moment, non, ça ne nous satisfait pas, et donc nous poursuivons la guerre.
Merci beaucoup Ulysse, merci à tous les six, et merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à toutes et à tous, on se retrouve demain. Bonne soirée.